Signal FM 90.5 à www.signalfmhaiti.com. Nous dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit à côté après les radios. Jeudi à là, nous avons rendez-vous avec l'association professionnelle de l'école privée, dans le cadre d'émission formée éduquée Vifève, qui est pardonnée par Loco Design, établissement vieux, édition Zemes avec Batimax. Et jeudi à cette deuxième émission avec Madame Martine Libertino, qui a parlé avec lui de questions à la paix. Dans la première émission, il était parlé de philosophie, ça qui te mène à développer, de philosophie la paix, qui ça la paix. Le développer pour nous, ça veut dire médiateur de paix, qui mission médiateur la paix. Pour nous porter la paix, il faut d'abord la paix en nous-mêmes. Il explique que la paix est son résultat au travail de chaque jour, au travail personnel, au travail tout ensemble, au travail collectif. Il était parlé de outils qu'il proposait pour cultiver paix ça dans nous-mêmes. Il était dit nous tout que la peur là tout demander tout que nous gagne conscience et c'est conscience ça qui fait que n'a pas redouté sanction famille, sanction amis, sanction la loi. Il était parlé de école ça que la professeure qui sont école d'éveil philosophique. Il dit qui j'encule enseignel en timon ou adolescent ou adulte et il était montré nous tout que contrairement à ça mon dit l'homme c'est pas souffrance qui fait le grandir. C'est expérience d'abord. Et il a parlé tout de propositions que le fait par tout grand monde qui pas su formation qui ça peut faire le conflit entre grand monde entre petit monde dans salle de classe ou bien sur la cour récréation. Alors madame Martine Bertino, nous allons donc poursuivre la question que je vais avoir d'entrée de jeu pour vous. Dans votre philosophie, vous dites que chacun est responsable de ce qui lui arrive. Puisque chacun attire aussi ce qui lui arrive. Dans ce cas-là, qui est responsable des massacres, des génocides, des guerres civiles, des viols?
Alors, bon, c'est une question pas difficile, mais encore une fois, qui demande beaucoup d'explications. Alors, quand je parle de responsabilité, il faut bien être clair. Hein. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui va être violée, par exemple, est responsable d'avoir attiré un violeur. C'est absolument pas ce que je dis. Hein.
Alors, j'aimerais au départ, en deux mots, que vous faites la différence entre culpabilité et responsabilité, pour que nous puissions bien situer le débat. Ouais.
Alors, je pense que si on veut bien comprendre, il faut partir de l'évolution de l'homme dès sa naissance. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, à sa naissance? C'est qu'il a effectivement des programmations émotionnelles de peur et de colère qui sont en lui. Maintenant, on peut se dire, cet enfant vient au monde avec ses programmations, mais qui lui a mis ses programmations?
Permettez-moi de vous dire une chose. Oui. Est-ce que vous pouvez encore une fois préciser, expliquer pour l'auditoire, qu'est-ce que c'est qu'une programmation émotionnelle?
Ok. Alors, une programmation émotionnelle... c'est une mauvaise interprétation finalement des événements, de la vie, de ce qui m'est arrivé. Et on peut schématiser l'explication en disant qu'à l'intérieur de nous, nous avons des peurs et nous avons des colères qui sont des habitudes de fonctionner. Donc une programmation émotionnelle, c'est une habitude de fonctionner que j'ai. Sans être capable de pouvoir la remettre en question et sans être capable de transformer donc cette attitude tant que je pense justement que je vais vivre cette situation. Ce qui veut dire qu'on peut considérer notre subconscient soit comme un perroquet, soit comme un ordinateur qui répète toujours les mêmes choses. Et il faut bien comprendre que notre subconscient, alors que notre intelligence l'est, notre subconscient n'est pas intelligent. Ce n'est qu'une machine qui répète sans arrêt les choses. C'est ce qu'on appelle la programmation émotionnelle. Bon, est-ce que c'est clair?
Vous pouvez y aller.
Voilà. Alors, maintenant, dès la naissance, l'enfant qui a des programmations émotionnelles en lui, en fait... a créé lui-même ses programmations émotionnelles, non pas parce qu'il ne s'aime pas, non pas parce qu'il est idiot ou parce qu'il est plus méchant qu'un autre, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il a interprété la vie, interprété des événements, et en lui sont ses programmations émotionnelles. Ce qui veut dire que, en fait, inconsciemment, il est responsable de l'interprétation qu'il fait de la vie. Et c'est dans ce sens-là que je parle de responsabilité. Quand je parle de responsabilité, je veux dire que j'ai le pouvoir de faire ou de défaire, par mon interprétation. Oui. Donc, moi, je ne vois pas ça comme un défaut ni comme une difficulté. Je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité, de prendre de conscience que si j'ai créé en moi une programmation émotionnelle qui me fait souffrir et qui me conduit à attirer des événements difficiles, ça veut dire que je suis capable de défaire cette programmation et de mettre à la place une programmation qui va me rendre heureux. Donc, c'est un grand espoir pour l'humanité, hein, de prendre conscience de cela. Alors que nous voyons que la culpabilité est complètement stérile, puisque je suis coupable, j'ai honte de moi, et ça ne veut pas dire que je vais faire quelque chose pour en sortir. Au contraire, je vais répéter la même situation indéfiniment. Alors, pour en revenir à votre question, quand je parle de responsabilité, encore une fois, une personne qui a été violentée, une femme qui a été violée, un enfant qui a été battu n'est absolument pas responsable de ce qu'il a attiré, hein. En fait, il est responsable des peurs qui font qu'il peut attirer un type de situation. Mais la personne qui est entièrement responsable du mal qu'elle fait, c'est la personne qui lui fait du mal. Hein.
C'est le violeur, c'est
voilà,
l'assassin.
Exactement.
C'est le massacreur.
C'est clair. Et nous ne devons en aucun cas minimiser l'attitude de l'égoïste, l'attitude du destructeur, l'attitude de la personne qui nous fait du mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'enseigne à mes élèves une des qualités les plus importantes, qui est d'ailleurs une des valeurs fondamentales, qui est la détermination, parce que l'être humain est venu sur Terre pour être heureux, il est venu sur Terre pour s'aimer, il est venu sur Terre pour être généreux, mais aussi il est venu sur Terre pour savoir exister et ne pas laisser les autres lui faire du mal. Ça fait partie aussi de mon enseignement, c'est très important.
Ce qui veut dire que c'est le contraire de cette doctrine qui prétend que la Terre est une vallée de larmes.
À l'opposé.
Tout
voilà.
À fait.
La Terre doit être une vallée de bonheur, à condition que nous soyons capables, avec puissance et détermination, de faire ce qu'il faut pour que ce soit une vallée de bonheur. Parce que ce n'est pas Dieu qui va nous envoyer la vallée de bonheur. Dieu peut nous insuffler une énergie, peut nous insuffler de l'amour, mais nous devons faire le travail.
Si Dieu est amour, comme vous dites, est-ce que vous rejoignez cette opinion du pape François qui dit que l'enfer, tel que les hommes se le représentent, n'existe pas ? Puisque Dieu qui est amour ne peut pas vouloir brûler ses enfants.
Mais l'enfer, il est en nous quand nous nous faisons souffrir. C'est tout. Voilà. Donc à nous de sortir de cet enfer, parce qu'on s'imagine que l'enfer est sur terre et que le paradis est de l'autre côté. Le paradis, on peut le faire ici tout de suite. Voilà. Mais il faut se retrousser les manches, il faut travailler.
Est-ce que vous allez aussi loin que lui quand il dit que l'enfer, c'est de vivre sans Dieu ?
Je dirais que l'enfer, c'est de vivre sans amour, donc sans Dieu. Voilà.
C'est ça. Maintenant, poursuivons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut poursuivre les responsables, les bourreaux, puisque ceci ne représente que les instruments nécessaires à l'accomplissement d'un désir inconscient?
Qu'est-ce que vous appelez les nécessaires? Pourquoi vous dites nécessaires?
Quand il y a un désir inconscient,
oui.
Inévitablement, il y a les instruments qui vont servir à réaliser ce désir. Mm-hmm. Sans ces instruments, le désir ne se réalise pas. Mm-hmm. Donc, inévitablement, il y a un aspect de nécessité dans la fonction de l'instrument.
Donc dans la fonction, par exemple, d'un violeur ou dans la fonction d'un
quel
gouvernement
que soit
qui écrase.
Quel que soit le persécuteur, oui.
Bon, j'aime bien quand vous parlez de désir. Je trouve ça vraiment... là, vous rejoignez ma philosophie. Pourquoi ? Parce que il y a, en fait, chez l'être humain, ses besoins et ses désirs. Ses besoins, c'est quoi ? Ce sont quoi ? Ces besoins, en fait, c'est ce qui répond à son idéal, c'est ce qui répond à ce qui est important pour lui, qui lui permettra de se réaliser dans la vie, mais sans faire du mal aux autres. Hein. C'est-à-dire que chaque fois que je respecte mes besoins, je me respecte, je respecte mon entourage, je respecte le monde. Je suis vraiment alignée et je suis correcte dans ma vie. Je ne peux faire de mal à personne. Par contre, qu'est-ce qu'un désir ? Un désir est l'effet de mon subconscient et répond en fait à ma frustration. Donc c'est intéressant quand même de voir cette démarche-là, à savoir que, revenons aux personnes qui peuvent justement faire du mal, qui peuvent écraser les autres, etc. Pourquoi cette personne va écraser les autres ? Parce qu'elle désire prendre le pouvoir, parce qu'elle a peur de ne pas l'avoir, parce qu'elle a des frustrations au fond d'elle, parce qu'elle a un désir de revanche, etc., sur ce qu'elle a vécu, sur son passé. Si on regarde, par exemple, la vie d'Hitler, en détail, on voit à quel point cette personne était frustrée. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir... Moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas la vie d'Hitler. C'est de voir comment il a pu manipuler les autres. Voilà. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette situation, ce n'est pas le pouvoir utilisé par lui, mais c'est de voir à quel point les personnes qui sont en face de lui se sont fait manipuler, justement, par leur propre peur, par leur propre désir, par leur propre difficulté. Pardon ?
Par leur propre haine, désolé.
Mais la haine, c'est de la peur, de toute façon. Oui. Voilà. Voilà. Et donc, par leurs propres émotions, ce qui nous amène justement à manquer de vigilance et à ne pas voir la réalité. Donc, je vais dans votre sens et très fortement en disant que toute personne est responsable de ce qu'elle fait. Et à partir du moment où une personne porte atteinte à la vie d'une autre personne, on doit l'empêcher.
Quelle est la place du pardon à ces cas de figure ?
Le pardon me sert d'abord à moi-même. Parce que, bon, prenons le cas, un cas très précis, parce que je travaille beaucoup avec les femmes violées. Lorsque j'ai créé des modules de travail avec les femmes violées, parce que nous avons constaté depuis longtemps que même si nous donnons l'opportunité à une femme qui a été violée d'apprendre un métier, de se réaliser dans la vie, même si elle part avec son bagage, elle va continuer à se faire du mal, elle va continuer à se détruire. Et pourquoi elle va continuer à se détruire ? Parce qu'en fait, elle ne va pas se pardonner ce qu'elle a vécu. Et je me souviens d'avoir vu un reportage qui était très intéressant, donc au Congo, où un médiateur mettait en présence une femme violée avec son violeur. Et son travail, c'était justement de trouver une solution pour permettre à ces deux personnes, pour l'un de se réconcilier avec lui-même et pour elle de trouver la paix dans sa vie. Voilà. Et c'était très poignant parce que cette jeune femme lui disait « À cause de toi, maintenant, je suis rejetée par mon village, tout le monde me met à l'écart, etc. » Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le médiateur a dit à la personne qui l'avait violée, lui a dit « Tu dois demander pardon. » Ah. C'est bien de demander pardon, mais à aucun moment, il ne lui a dit « Tu dois te pardonner à toi-même. » Et effectivement, il lui a demandé pardon. Mais pour moi, voilà. Il lui a demandé pardon, il est parti avec sa culpabilité, il est parti avec sa douleur, parce que c'est vrai que là, dans le cas particulier, il regrettait d'avoir agi ainsi. Et pendant toute la séance, ces deux personnes ne se sont pas regardées dans les yeux. Et effectivement, si cet homme s'était pardonné à lui-même, il aurait pu la regarder dans les yeux. Maintenant, je parle de la personne qui a été violée. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi ces femmes ne se réalisent pas dans la vie ? Parce que justement, le gros travail qu'elles n'ont pas fait, c'est de se pardonner à elles-mêmes d'avoir été violées. C'est le grand travail que ces femmes doivent faire. Parce que tant qu'elles ne se pardonnent pas, il y a cette culpabilité de dire « Mais au fond, si j'ai été violée, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai eu une attitude équivoque, etc. Je n'aurais pas dû être là au moment où je l'étais. » Et même, il existe des femmes qui, pendant ce viol, peuvent éprouver certaines sensations et qui vont parce que c'est du domaine du physique, ça n'a rien à voir avec leur mental, avec leur attitude dans la vie de tous les jours. Et ces femmes vont avoir une double culpabilité. Et donc, le gros travail, c'est justement d'apprendre à se pardonner. Donc, quand je parle de pardon, je dis toujours à mes élèves et à mes patients depuis de longues années. Quand vous parlez de votre enfance et que vous dites que vous avez pardonné à vos parents, pour moi, vous n'avez rien pardonné du tout. Parce que oui, vous avez pardonné intellectuellement dans votre tête. Mais regardez la relation de cause à effet entre aujourd'hui votre attitude avec vos parents, parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à leur parler, à être en paix avec eux, parce que vous vous sentez agacé, parce que vous êtes gêné par leur présence, parce qu'en fait, avant de leur pardonner à eux, il faut vous pardonner à vous ce que vous avez vécu avec eux. Et lorsque je fais des médiations familiales, par exemple, et que ces deux personnes comprennent ce processus, parce que de la même manière, les parents aussi, pour entendre leurs enfants, pour entendre la difficulté de leurs enfants, le premier travail qu'ils doivent faire, c'est dire « J'ai entendu ce que tu m'as dit. Peut-être que je ne comprends pas ce que tu me dis, mais si je t'ai fait du mal, ben je te demande pardon, parce que moi, je me pardonne également. Voilà. » Et seulement dans ces conditions, les personnes peuvent se réconcilier et trouver la paix.
Mais c'était compliqué, se pardonner.
C'est l'enjeu. Vous dites que ce n'est pas facile parce que vous n'avez pas fait l'exercice encore. Mais justement, je pense que... Alors, ce n'est pas facile parce qu'on se fait une idée de se pardonner. Et pour se pardonner, il faut déjà prendre conscience qu'il est important que je m'aime. Alors, évidemment que vous pouvez me dire « Mais ce n'est pas facile de s'aimer. » Alors, je vais plus loin. Pour s'aimer,
Il faut d'abord dire aux gens que s'aimer ne veut pas dire être narcissique.
Ah, ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est être prétentieux. Voilà.
C'est autre chose. Voilà.
S'aimer, c'est prendre conscience de sa valeur. C'est prendre conscience que je suis un être humain. Prendre conscience que j'ai des défauts et des qualités. J'ai des difficultés. Et que je dois tout aimer de moi. Le meilleur comme le pire.
Disons bon. S'assumer.
C'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Moi, j'irais beaucoup plus loin en disant je dois avoir de la tendresse pour moi. C'est autre chose hein, que s'assumer. S'assumer.
Est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas trop tendance à se pardonner certaines choses ?
Ah, j'étais sûre que vous alliez me poser cette
question. Ah, justement.
Ne confondons pas pardon, assumer ses responsabilités, savoir qui nous sommes, et opportunisme, laxisme, etc. Ça, c'est du domaine du subconscient. Et dans le travail que nous faisons ensemble, c'est très subtil, justement, parce qu'il y a toujours la frontière, vous voyez.
Oui, et c'est comme... une frontière très, très mince, ça.
Oui, mais c'est ça qui est passionnant. Et justement, dans le travail que nous faisons, j'explique à mes élèves, je leur fais une petite ligne, je leur fais des petits dessins, parce que j'aime bien faire les petits dessins. Et sur cette petite ligne, je leur explique qu'il y a le refus. Prenons par exemple une qualité. On a parlé de responsabilité tout à l'heure. Pour que je sois responsable d'une manière juste et équilibrée, il faut que je sorte des deux extrêmes que je peux vivre, à savoir... Je refuse ma responsabilité, c'est-à-dire que je suis égoïste. Ou je vis ma responsabilité à l'extrême, je me sacrifie. Et petit à petit, la personne va pouvoir retrouver cet équilibre, à savoir, je suis responsable des autres tout en prenant soin de moi. Et elle va passer par des expériences qui vont lui faire un travail de balancier, à savoir que le jour où elle se sacrifie, elle va en avoir marre de se sacrifier, elle va être fâchée, elle va être en colère. Donc elle va partir dans l'autre extrême en se disant « j'en ai marre des gens, je ne veux plus m'occuper d'eux ». Elle va se sentir coupable parce qu'un responsable ne peut pas vivre comme ça. Et elle va retourner dans l'autre extrême jusqu'au moment où elle viendra faire un travail avec moi. Et je vais lui expliquer comment, petit à petit, se rapprocher du centre de l'équilibre.
Voilà. Est-ce que vous avez suivi l'expérience de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud ?
De loin.
Ok. Donc pas assez pour vous faire une opinion.
Je pense que déjà c'est une bonne approche, une bonne démarche, parce que si au moins tous les pays faisaient cela, ça serait bien. Mais il manque quelque chose.
Laquelle ?
Toujours ce travail sur les programmations émotionnelles. Vous voyez, parce que pouvoir s'exprimer, pouvoir parler de sa souffrance à l'autre, se réconcilier, demander pardon, c'est bien. Et loin de moi l'idée de dire « il n'aurait pas dû le faire parce que c'est pas bon ». Non, parce que c'est déjà une grande évolution pour le monde. Mais si on voit ce qui se passe en Afrique du Sud, ça n'a pas tout à fait réglé les problèmes. Et les problèmes de racisme existent encore. Toutes ces difficultés existent
encore.
De violence. Voilà. Mais pourquoi ?
D'insécurité.
Pourquoi ? Parce que les programmations émotionnelles sont toujours là. Et on peut venir maintenant... peut-être à la deuxième phase de ce dont j'aimerais parler, c'est de l'inconscient collectif.
Vous voyez ? Allez-y.
Parce que tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, on n'a parlé que de l'individu. Mais si nous comprenons comment fonctionne un pays c'est quoi ? Un pays c'est l'ensemble de nombreux individus, qui existe dans ce pays sur un plan physique, mais qui existe dans ce pays sur un plan des personnalités, sur le plan des individus, et même sur un plan au niveau de l'énergie, parce qu'un pays, c'est une énergie, au même titre qu'une personne est une énergie. Dans cet inconscient collectif, il y a toutes les valeurs de ce pays, toutes ces qualités que je représente par le terme de culture, ce qui veut dire que la culture est vraiment importante dans un pays. Et l'évolution de notre monde aujourd'hui, l'évolution technologique, ne doit pas nous faire oublier notre culture. C'est très important. Et je vous lance l'appel aussi chez vous. Ne tombez pas dans les mêmes pièges que nous. Gardez les bonnes choses de votre culture, parce qu'il y a de magnifiques choses. Bon. Maintenant, à partir du moment où les êtres humains faisant partie de ce pays ont des programmations émotionnelles, en fait, la somme de ces programmations émotionnelles, l'ensemble de ces programmations vont se répercuter dans l'inconscient collectif de ce pays. Ce qui veut dire que vont se marier, pas forcément toujours bien, et la culture qui est... qui fait partie finalement de notre conscience, puisque la culture représente les besoins d'un pays. Et en même temps, le subconscient de l'inconscient collectif de ce pays, c'est-à-dire ces programmations émotionnelles, qui amènent les gens au niveau de la population et au niveau du gouvernement à interpréter la culture d'une manière négative, ce qui va les conduire à en souffrir. Bon, je vous donne un exemple. Hein. Si ma culture est d'accueillir les gens et d'être solidaire, etc., si je l'interprète avec mes problèmes émotionnels, si je suis une personne qui n'a pas compris le sens de la responsabilité, je vais me sacrifier pour les autres, et je vais tout donner, je vais donner même ce dont j'ai besoin, et un jour je vais me révolter parce que, à force de m'être sacrifié, je vais aussi devenir intolérant avec les autres. Bon, au niveau d'un pays, au niveau d'un inconscient collectif, c'est exactement la même chose, ce qui veut dire que au bout de quelques années, lorsqu'un peuple a été sacrifié, il va évidemment développer une frustration. Cette frustration va engendrer un sentiment d'injustice, des colères, qui va engendrer soit une guerre civile, soit des manifestations, soit une violence. Voilà. Et la violence dont on parle souvent, dont vous parlez, est une programmation émotionnelle dans l'inconscient collectif d'un peuple. Ce qui veut dire que on peut faire toutes les lois qu'on veut. On va faire des répressions, oui, mais la répression n'enlèvera pas la violence. Elle va la déplacer dans les prisons, c'est tout ce qu'on va faire. Hein. Alors que si on permet aux êtres humains de découvrir la violence qui est en eux, en leur disant d'aller beaucoup plus loin, qu'est-ce qui se cache derrière ta violence, hein, qu'est-ce qui se cache derrière la frustration qui te mène à la violence, eh bien, va voir quels sont tes besoins, va voir ta souffrance. Et à ce moment-là, exprime ta souffrance et sois déterminé pour mettre en place des situations dans ton pays qui ne te font plus souffrir. Et ce qui serait intéressant dans l'inconscient collectif, par exemple, d'un pays, c'est de voir que souvent cette violence est la conséquence aussi de la passivité et de la dépendance d'un peuple.
Nous rappelons à tout le monde que nous suivons l'émission FEV de l'Association professionnelle des écoles privées, partenée par Loco Design, établissement Vieux, éditions EMS et Batimat. Eh bien, c'est la fin de la première partie de la seconde émission. Et nous demandons à tout le monde de rester branché. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des critiques, vous pouvez toujours écrire à pep@pep.fev10@gmail.com ou téléphoner au 3401-4183. Restez branché pour la deuxième partie de la deuxième émission.